Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
Et c'est toujours avec un énorme plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, eh bien, nous aurons l'immense plaisir de recevoir le directeur du FIDADOC, donc le Festival international du film documentaire d'Agadir, qui a refermé ses portes dernièrement lors de la 15e édition du festival. Et on reviendra eh bien, sur les thématiques abordées par cette nouvelle vague de jeunes cinéastes africains, mais pas que. En tout cas, on aura le plaisir d'en discuter avec Hicham. Et en parlant cinéma, eh bien, nous analyserons ensemble The Bride, un film qui a fait beaucoup de bruit et qui est signé Myriam Yu Diarra, qui à travers ce film cherche à briser les barrières et certains tabous dont, et principalement, le mariage forcé, une pratique culturelle actuellement illégale devenue un sujet tabou. Et puis nous aurons également l'immense plaisir de recevoir un peintre, il s'appelle Mohamed Ben Yahya, qui nous fera découvrir son univers artistique qu'on a du mal à définir entre inconscient et spiritualité. Il sera avec nous pour nous en parler. Et comme promis tout à l'heure, place tout de suite à notre premier invité du jour, Hicham Fallah, délégué général du Festival international du film documentaire d'Agadir, qui a refermé ses portes le 12 juin dernier pour une 15e édition haute en couleur. L'occasion, bien sûr, de découvrir sur grand écran de nouveaux noms du cinéma africain et le meilleur des réalisateurs émergents, avec un petit penchant pour les nouveaux talents africains. Et qui de mieux pour nous en parler que Hicham Fallah en personne.
Vient juste de terminer la 15e édition du Festival international du film documentaire d'Agadir. 15 ans, ça veut dire que la première édition s'était déroulée en 2008 et c'est vrai que c'est toujours difficile pour les gens, pour le public, pour les professionnels marocains, d'imaginer ce qu'était le paysage du cinéma documentaire marocain et aussi africain, arabe, il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la programmation, on peut présenter à la fois une variété, une diversité de films qui viennent de tout le continent et de la région, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans. Cette année, dans la programmation, on avait à la fois des films, j'allais dire, produits, et financé principalement par le continent, même si beaucoup des films, évidemment, sont aussi des coproductions qui ont besoin des capitaux européens, américains pour exister. On a aussi des cinéastes de la diaspora, qu'ils soient marocains ou d'autres pays africains, qui vivent dans d'autres pays pour des raisons parce qu'ils sont nés, pour la culture, mais aussi certains parce qu'ils sont exilés pour des raisons politiques, pour des questions voilà, de sensibilité différentes, sont obligés de quitter leur pays et de revenir filmer dans leur pays ou dans d'autres pays du sud global.
Et par rapport à cette année, Hicham Fallah, est-ce qu'il y a des thématiques, des sujets qui reviennent souvent un peu comme un fil conducteur chez les cinéastes ?
Par rapport à cette année, ce que je dirais, c'est que en fait, il y a vraiment questions qui émergent chez beaucoup de jeunes cinéastes, qu'ils soient africains, arabes, mais aussi de cinéastes qui s'intéressent à ce qui se passe sur notre continent, qui est évidemment la question coloniale, toute une réflexion sur la question coloniale, post-coloniale, sur la question de l'Empire. Et donc là, très concrètement, on avait le film qui a eu le Grand Prix de Raphaël Pilosio, « Quelques mots qu'elles eurent un jour », en fait, qui s'intéresse à la mémoire des militantes du FLN algérien qui avaient été emprisonnées en France et quel a été le destin de ces femmes après l'indépendance algérienne et surtout quelle a été la place des femmes tout ce qui était la promesse d'égalité, voilà, elles ont combattu en même temps que les hommes. Et qu'est-ce qui est devenu cette promesse de liberté, cette promesse d'égalité après l'indépendance? Donc là, c'est un réalisateur français qui creuse cette question, qui a déjà fait un film sur la question de la guerre d'Algérie, le rapport avec la France. Mais là, vraiment, c'est une vision extrêmement émouvante. En retrouvant des images de ces militantes qui avaient complètement disparu, c'est tout un questionnement qui est vraiment absolument passionnant et qu'on retrouve chez beaucoup de cinéastes plus jeunes, de travailler la mémoire de leurs parents, de la génération de leurs parents, de leurs grands-parents, et aussi la question des empires actuels, le prix spécial du jury, aller à Hollywood Gate. De Ibrahim Nashat, qui est un réalisateur égyptien, qui est maintenant installé en Allemagne et qui a eu vraiment un accès totalement inédit, exceptionnel au régime des talibans après le départ des Américains de Kaboul et de l'Afghanistan. Et donc, il a pu vraiment pénétrer à l'intérieur d'une base militaire récupérée par les talibans. Et donc là, on a un jeune cinéaste égyptien qui comprend pas forcément la langue, mais qui nous fait à la fois un portrait de la transformation des talibans en une milice, en un état voilà militaire, policier, mais aussi tout ce que les Américains et tout ce que voilà l'Occident, l'Empire a laissé, à certaine manière a légué à ce régime. Donc c'est vraiment un film très 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 impressionnant, voilà qui a forcément frappé le public, et beaucoup d'autres films creusent ces questions.
Il y a eu également de nombreux hommages qui ont été rendus lors de cette dernière édition du FIDADOC, dont celle de Kristen Johnson, donc chef opératrice qui a souvent accompagné Michael Moore notamment. Est-ce que il y avait également une sorte de volonté de créer une cohérence entre les thématiques abordées par les cinéastes et les hommagés?
Retrouve, il y avait une certaine cohérence, évidemment, avec le choix des professionnels à qui on a rendu hommage cette année, la chef opératrice américaine Kirsten Johnson, qui, en tant que chef opératrice, a accompagné Michael Moore et Laura Poitras de grandes signatures du documentaire américain de ces 15 dernières années dans leur regard critique sur l'Empire américain, que ce soit évidemment avec Fahrenheit, sur la guerre en Irak pour Michael Moore, et avec Laura Poitras, tout le travail qu'elle a fait en suivant Snowden et voilà tous les lanceurs d'alerte américains sur ce qui se passe dans le système voilà dans le système américain. Donc Kirsten était la chef opératrice de ces films, et elle-même quand elle a découvert l'Afrique, voilà, comme elle l'a précisé dans sa masterclass, une jeune américaine blanche de milieu plutôt bourgeois qui s'est pris vraiment dans la tête le grand cinéma africain, c'était Touki Bouki de Diop, et qui a vraiment voulu aller en Afrique. Et c'est en allant au Sénégal pendant 2 ans, d'une certaine manière, que sa conscience politique et aussi son idée de faire une école de cinéma en dehors des États-Unis. Et donc là, vraiment, elle a partagé avec les jeunes étudiants, jeunes cinéastes et le grand public toute sa réflexion sur l'éthique quand on va filmer sur le continent africain ou dans des pays en guerre, toutes les questions éthiques que doit se poser le caméraman et le réalisateur. Donc elle a vraiment partagé ça. Donc voilà, donc c'était vraiment un fil rouge de cette 15e édition. Et je pense que c'est une thématique qui forcément va, pendant plusieurs années encore, être très importante dans les films de cinéastes africains. Je pense que ça sera une question qui va continuer de hanter des cinéastes africains ou des cinéastes qui s'intéressent à ce qui passe sur notre continent dans les années à venir.
Merci beaucoup Hicham Fallah d'avoir été avec nous pour eh bien, faire un petit résumé des moments forts de cette dernière édition du FIDADOC 2024, dont le grand gagnant est les mots qu'elles eurent un jour de Raphaël Pilozo, qui a remporté le Grand Prix donc, de la 15e édition du Festival international du film documentaire d'Agadir. Merci encore Hicham d'avoir été avec nous. Et après avoir parlé cinéma, on continue à parler cinéma avec notre coup de cœur ciné de Bride, qui est un film qui a beaucoup fait parler de lui. Alors loin, très loin du personnage romantique évoqué par son titre, The Bride, un film rwandais. C'est l'histoire d'abord d'un drame collectif que beaucoup de femmes ont subi, le mariage forcé, une pratique culturelle actuellement illégale et qui est devenue un sujet tabou et dont Myriam U. Birara a cherché à briser les barrières. Dans son premier long métrage, la réalisatrice a voulu faire sortir de l'oubli cette pratique pas si lointaine que ça. The Bride, le film, je le rappelle, a été présenté en avant-première en Espagne après avoir reçu une mention spéciale à la dernière Berlinale. Alors The Bride raconte l'histoire d'Eva, une jeune femme qui espère devenir pédiatre jusqu'à ce qu'elle soit kidnappée et violée par un inconnu nommé Silas. Entraînée dans un mariage dont elle ne veut pas, un mariage forcé, le lien d'amitié avec le cousin de son mari sera son seul soutien et son seul espoir. Birara situe The Bride dans la campagne rwandaise de 97, une période extrêmement traumatisante après le récent génocide perpétré 3 ans plus tôt contre la communauté Tutsi. Cet événement historique est présent d'ailleurs dans le premier long métrage. La cinéaste qui s'intéresse à ses conséquences, notamment pour les femmes, au cours de ces années-là, la goûter Rura, nom donné au kidnapping de la mariée, est devenue une pratique répandue et traumatisante pour de nombreuses femmes. J'ai senti que je devais raconter ces histoires parce qu'elles semblent avoir été oubliées, mais la réalité est qu'il y a encore beaucoup de femmes victimes de mariages forcés et c'est devenu un sujet tabou même dans leur propre famille, car beaucoup ont été victimes de mariages forcés. Et c'est pour ça que j'en ai voulu parler, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre en lumière et dépasser les barrières de ce tabou. Fin de citation. En tout cas, la cinéaste rajoute en disant « La vérité, c'est que c'était une idée très facile et rapide à écrire, mais que c'est une histoire de femme et je m'y suis également identifiée. » Myriam U. Birara donne justement un rôle prépondérant dans l'intrigue à l'amitié née entre le personnage principal et le cousin de son mari. Une relation qu'elle souhaitait rendre naturelle sur grand écran, où elle voulait refléter le contraste de maturité des deux personnages. Elle souhaitait également montrer le passage brutal de l'enfance à l'âge adulte, auxquelles sont contraintes de passer les victimes de mariages forcés. Et toujours selon la cinéaste, The Bride sortira dans peu de temps, fin juin, dans les salles de cinéma rwandaises ou Birara. La réalisatrice donc a hâte de voir la réaction du public rwandais. Et après avoir parlé cinéma, tout de suite, nous parlons peinture avec un artiste qui nous a fait vibrer. Il s'appelle Mohamed Ben Yahya et son univers artistique est tout simplement insondable, difficile à définir entre inconscient et spiritualité. Mohamed Ben Yahya nous parle d'inspiration, mais également de son univers artistique.
Mon univers artistique se focalise sur le comportement présent et futur de l'homme, en quête de réponses satisfaisantes aux émotions et aux réflexions exprimant la pensée moderne, ainsi que son impact sur l'avenir et son intégration dans un monde en constante évolution, sur les plans social, culturel, politique et économique. En parallèle, avec le développement technologique rapide, tout cela converge vers l'unification de l'univers, notamment de comportement humain. À partir de ce schéma philosophique, en 1986, j'ai réalisé mes premiers tableaux monochromes où toutes les formes se décomposent en lignes avec la présence de personnages l'éternel. Cette collection marquait le début d'un cheminement de mon style que j'ai développé au fil des années.
Et en ce qui concerne votre inspiration, qu'est-ce qui fait que vous peignez? Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien?
Le cumul de la lecture des livres portant sur la peinture, les visites des différents musées européens et le contact avec des œuvres de peintres célèbres tels que Picasso, Salvador Dali et Vasarely ont enrichi mes inspirations. D'autre part, les endroits où j'ai vécu, comme Fès et Oasis, ont également contribué à ma palette d'inspiration. La culture marocaine a un impact significatif sur mes créations. Je suis influencé par la richesse de la tradition et la finesse des techniques artisanales marocaines que j'ai apprises de mon entourage familial, comme je l'avais mentionné précédemment. De plus, la plupart des sujets que j'aborde sont inspirés de la tradition et de la culture marocaine.
Et avant de nous quitter, si Mohamed Ben Yahya, une dernière question peut-être, puisque vous exposez en ce moment même, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernière exposition ?
Mon exposition actuelle, intitulée « Ligne, unité, puissance, le spirituel humain », se tient à la Fondation Inexpaï Chaouibois à Salé, le 30 mai au 13 juin 2024. Et sera prolongée jusqu'à la fin du mois. Cette exposition explore la relation entre l'unité et la force spirituelle face aux défis technologiques contemporains. L'exposition présente une série de 30 toiles acryliques. Mon objectif est d'inviter les visiteurs à réfléchir sur leur propre perception de la lumière et à ressentir les émotions que la monochromie peut évoquer chez eux. Je souhaite que la peinture soit une source d'inspiration pour tous.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Mohamed Ben Yahya. C'est un plaisir de vous recevoir. Et avant de nous quitter, je vous propose de parler littérature et place tout de suite à Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé le nouveau roman de Marc-Alexandre Ombambé et qui est à la fois un hymne au jazz, roman sur la transmission du père au fils et déclaration d'un père à sa fille. Jaromil, musicien de jazz, reçoit un jour dans sa boîte aux lettres un paquet contenant un courrier, des cassettes audio venues d'un autre temps, d'une autre époque, avec un disque de jazz et la photo d'un homme qui lui ressemble trait pour trait. J'ai découvert que mon père était encore en vie le jour de sa mort. Ma mère m'avait tout caché depuis toujours. C'est ça l'histoire de Jaromil qui, après ce courrier, part en quête de cet homme qui n'a pas connu, le grand-père de sa fille. Indira, à qui il va écrire tous les jours pour lui raconter ce qu'il découvre. Indira qui lui a sauvé la vie, lui qui a failli mourir d'overdose. Indira qui est l'amour de sa vie, maintenant qu'il est séparé de sa mère Maïcha. Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé est un roman avant tout de la transmission, de l'héritage. Marc-Alexandre Ombambé joue à la fois sur la relation père-fille. D'ailleurs, on l'écoute tout de suite.
On est touché ou on n'est pas touché par un poète. Alors après, on découvre effectivement quel est le poète qui nous touche, on découvre son œuvre. Mais moi, j'ai été touché très tôt par des mots. Mm-hmm. Des mots de René Char, j'avais 15 ans et je me souviens d'une phrase qui m'a bouleversé à vie et qui m'accompagne encore aujourd'hui, qui est celle-ci. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. Si l'on est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Voilà, moi j'avais 16 ans, cette phrase-là passe dans ma vie, elle me bouleverse totalement. Je sais que mon rapport à l'écriture n'est absolument plus le même après cette phrase. Mmh. Et puis je découvre au fur et à mesure et au fil des années l'œuvre immense de René Char, mais d'abord, voilà, je suis touché par des mots. D'accord. Des mots simples qui sont accessibles à l'éternel étudiant à l'école de la vie que je suis. Et puis j'ai envie d'engouffrer j'ai envie de mettre mes pas dans les pas de celui qui a écrit ça. Et Césaire, c'est pareil, je pourrais vous citer aussi des phrases qui m'ont bouleversé quand j'avais 15-16 ans. Gardez-vous de rester les bras croisés en l'attitude stérile de spectateur, car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un proscénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse.
Marc-Alexandre Ombambé, qu'on a eu l'occasion de recevoir à Média et qui nous régale avec son nouveau roman « Souviens-toi de ne pas mourir ». Marc-Alexandre Ombambé écrit avec le rythme du jazz dont certains morceaux emblématiques donnent leur titre au chapitre. Il raconte aussi une histoire familiale, il parle de la ségrégation et du racisme. Il dit aussi et surtout l'espoir. Il nous parle également de la mort. Après les Lumières d'Oujda, Marc-Alexandre Ombambé nous ouvre et nous offre une nouvelle facette de son immense talent, poète, slam, romancier, Il nous régale encore une fois. Et on arrive d'ailleurs à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous et en clôture en beauté en musique avec un artiste que l'on aime énormément, Fahd Benchemsi, acteur mais également chanteur et grand amoureux de la musique gnawi, mais également Issaoui avec Maoulana, un morceau qu'il partage avec Orchids. Très bonne écoute à tous et n'oubliez pas, l'Afrique en culture, c'est à retrouver toujours en avant-première sur Média Podcast.
Get down.